Bonsoir. Situation sécuritaire donc, qui vaut une accalmie précaire est observée depuis ce mardi 7 novembre dans les zones de combat qui opposent les groupes armés locaux et les FRDC aux rebelles du M23, notamment sur l'axe Kibumba et dans le Massissi. Les armes se sont tues depuis ce mardi matin dans la région de Kibumba et Nyiragongo. Ce après d'intenses combats enregistrés lundi dans la matinée et qui ont provoqué la coupure d'une ligne moyenne tension d'électricité de la société Virunga Energy. La situation demeure imprévisible dans la zone opérationnelle où des milliers de déplacés ont pourtant trouvé refuge, indique le président de la société civile de Nyiragongo. Entre-temps, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Tshiwewe Christian, est arrivé à Goma lundi soir à la tête d'une force, une forte délégation de l'armée. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken appelle quant à lui à la désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet appel intervient 3 jours après le lancement d'une opération conjointe de l'armée congolaise et de la MONUSCO pour contrer le M23. Quelle pourrait être, selon vous, la solution pour stabiliser cette partie de la RDC? Nous en parlons ce soir avec le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Capi.
Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, un projet conjoint de Jacques Boutelli, Human Rights Watch et Bradway Foundation. Henri Pacifique, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de la radio étatique.
Frédéric Amani, depuis Lubumbashi, les chercheurs associés en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, experts en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thales d'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi que les auditeurs de Radio Capi.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, Canal Plus, Channel 572, DSTV, Canal 867. Vous pouvez nous suivre aussi en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
La situation sécuritaire reste préoccupante sur les lignes des fronts depuis début octobre à la suite de la violation du cessez-le-feu par les belligérants, ce qui justifie l'arrivée à Goma lundi soir du chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Tshiwewe Christian, qui est en mission d'inspection des troupes selon les services de communication de l'armée. Pendant ces temps, plusieurs dégâts collatéraux continuent d'être enregistrés sur les terrains, sur le plan socio-économique et humanitaire, voulais-je dire. Nous en parlons avec Sifa Magourou depuis Goma.
Bonsoir Sifa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Que peut-on retenir actuellement de la situation sur le terrain?
Oui, il faut dire que des combats très violents ont été signalés la matinée ce mardi 7 novembre dans la région de Bambo, chef-lieu de Bwito en territoire de Rutshuru. Les notables de la région ont affirmé que les positions des rebelles du M23 à Bambo ont été attaquées par la coalition des groupes armés locaux, puis par des bombardements de l'artillerie des FARDC. S'en est suivi des affrontements violents toute la matinée. Par ailleurs, une accalmie précaire s'est observée ce mardi sur les autres lignes de front, notamment vers Kibumba, au nord de Goma et sur l'axe Kichanga-Masisi. Les sources locales indiquent que chaque camp continue à renforcer ses positions, ce qui préoccupe la population. Il faut parler aussi de l'arrivée du chef d'état-major général des FARDC à Goma depuis lundi soir en mission d'inspection selon les services de communication de l'armée. Le général d'armée Tshiwewe Songesa Christian est à la tête d'une forte délégation de l'armée alors que le combat a repris depuis octobre à la suite de la violation du cessez-le-feu par les belligérants.
Et qu'en est-il des conséquences sur le plan socio-économique?
Oui, disons que d'énormes dégâts collatéraux ont été enregistrés dans les zones de combat, tant sur le plan humanitaire que socio-économique. C'est par exemple l'incident qui s'est produit lundi 6 novembre sur les installations électriques de la société Virunga Énergie, ce qui a plongé une grande partie de la ville de Goma dans le noir. Toutefois, cette société a pu rétablir l'électricité ce mardi pour soulager la population, mais le problème reste entier parce que ces affrontements ont paralysé, si pas suspendu, plusieurs activités socio-économiques au nord Kivu.
Et que dire de l'opération militaire conjointe dénommée Springbok menée par la MONUSCO et les FARDC?
Oui, la force de la MONUSCO est passée à l'étape de la matérialisation de l'opération Springbok FARDC casque bleu contre la rébellion du M23. En effet, les commandants de la force onusienne et le conseiller principal du gouverneur en charge des opérations militaires ont visité hier lundi une position défensive des casques bleus autour des Sakés. C'est à plus de 30 km de Goma en territoire de Massissi. Cette position défensive est installée autour des collines surplombant le village Kimoka, 2 km des Sakés, sur l'axe Kirolirwe-Kichanga. Elle vise à protéger Sakés contre toute éventuelle attaque des rebelles qui ont réoccupé depuis quelques jours plusieurs positions dans cette partie du territoire de Massissi.
Merci beaucoup, Sifa.
Merci.
Merci, Guy Maté et Sifa Maguru, depuis Goma, au Nord Kivu. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le Nord Kivu, notamment dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, à cause de l'activisme du M23. Les combats, les affrontements entre les M23 et les FRDC ont repris depuis octobre et la situation s'empire sur le terrain. Le nombre des déplacés ne cesse de s'accroître. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, pour stabiliser cette partie de la RDC, malgré tous les processus de paix mis en place pour essayer de trouver des solutions? Ça ne semble pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci en tout cas pour la question qui est une question fondamentale et aussi une question qui est justement au cœur des débats, non seulement à Goma dans le Nord Kivu, mais aussi au niveau national, mais aussi au niveau régional et au niveau international. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, quand on regarde un petit peu les communiqués des uns et des autres, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout d'accord d'abord sur l'analyse qui est faite de la situation. Du côté congolais, on a une autre analyse. Du côté des rebelles ainsi que de leurs appuis, il y a aussi une autre analyse. Dès le départ, lorsqu'on ne se met pas d'accord déjà sur ce qui est comme conflit, le nœud du conflit, la base du conflit, tel que ce nœud et cette base du conflit n'est pas partagé par les différents belligérants, et donc il n'y a pas de possibilité de dire que l'on peut essayer d'entrevoir une solution. Généralement, dans des cas comme ça, lorsque l'on a des cas où il n'y a pas de vue commune par rapport au problème, on essaye de faire ce qu'on appelle l'imposition de la paix avec une force international qui va venir imposer la paix. Or, dans le cas du Congo, on a déjà cette force qui est la MONUSCO, et nous savons très bien, à partir de la lettre donc du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, qui a stigmatisé les résultats donc de cette force, qui a dénoncé dans une lettre de 4 pages tout ce que la MONUSCO n'a pas réussi à faire au Congo. Et donc cette force qui pouvait essayer d'apporter cette légitimation n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Par ailleurs aussi, il y a eu aussi des forces régionales qui ont été déployées dans le même but. On a plutôt les forces East African Community qui sont sur le terrain et pour lesquelles on se rend bien compte que ces forces sont dépassées et n'arrivent pas non plus à imposer quoi que ce soit. Maintenant on parle de la SADC, ça va être la même chose. Alors, de mon point de vue, si dans ce cas de figure où nous sommes dans une espèce d'impasse, il est important, de mon point de vue, d'essayer d'arriver d'abord à avoir une analyse commune, définir les problèmes, quels sont les problèmes qui amènent un conflit. Parce que le conflit, quand il y a un conflit armé, il vient toujours des différents qui existent à un moment donné, et lorsque ces différends qui existent à un moment donné n'ont pas trouvé de solution, et alors on a ce qu'on appelle des conflits armés et violents. Et donc, la première démarche, c'est de le faire. Alors, pour le faire, madame, ça veut dire que l'on doit prendre le problème par étape, par niveau. On a déjà le niveau local, on peut pas nier qu'il y a des problèmes au niveau du Nord Kivu, et aussi au niveau du Sud qui vit à d'autres niveaux, des problèmes qui sont liés notamment à des questions d'espace, notamment à question de richesse, notamment à question des ressources naturelles, mais aussi des problèmes au niveau des gestions des communautés dans un espace donné. Alors, dès ce moment-là, il y a cet aspect de choses qui est le premier niveau. On a un deuxième niveau, que ce problème qui est local a des implications claires avec le niveau régional. Et lorsque l'on a ces niveaux régionaux, il est important dans ce point de vue-là de pouvoir aussi avoir des dynamiques à ce niveau régional. Or, de savoir que ce conflit a aussi des dimensions internationales. Et donc, il y a ces différents niveaux sur lesquels il est importantissime de pouvoir arriver déjà à résoudre ces problèmes que nous avons depuis des années et des décennies, étape par étape, pour espérer enfin, si on peut dire, essayer de trouver des pistes de solutions pour soulager cette population qui n'a que trop souffert depuis des années et des années. Là, on parle maintenant d'électricité, alors qu'il y a des activités économiques qui sont le nœud, qui font vivre quand même des familles dans cette partie du pays. Ces activités sont réduites à presque à néant, et je n'ose pas imaginer les coûts des denrées alimentaires à Goma et aux alentours. Et ça, la vie ne doit pas être très, 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 très facile pour toutes ces populations. Déjà que la crise économique qui sévit au Congo ne permet pas de pouvoir, entre guillemets, entrevoir des perspectives meilleures. Voilà un petit peu en résumé ce que l'on peut essayer de dire à ce niveau sur la question de l'approche pour espérer arriver à avoir une solution.
Et cette solution devrait passer par quoi aujourd'hui? Il y a plusieurs appels à des discussions, plusieurs appels qui demandent au gouvernement congolais, au gouvernement rwandais, voilà, de pouvoir discuter sur cette situation, essayer enfin de soulager la souffrance des populations du Kivu qui ont beaucoup souffert à cause de cette guerre, professeur. Il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a parlé avec les deux chefs d'État. Il appelle à une désescalade. Je crois que c'est pas le premier appel. Est-ce que vous pensez que son appel pourrait être entendu?
Son appel ne sera pas du tout entendu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le Congo explique différemment le conflit et du côté du Rwanda, on explique différemment du conflit. Alors, lorsqu'on explique différemment du conflit, donc nous sommes dans ce qu'on appelle le langage de sourds. C'est-à-dire, on ne s'entend pas. Et comme on ne s'entend pas, et donc il n'y a pas de perspective de dire qu'il doit y avoir dialogue, vous voulez dialoguer entre deux qui parlent deux langues différentes, deux qui ont deux narratifs différents, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que chacun reste par son côté. Et pour l'instant, l'option qui est levée de part et d'autre, c'est-à-dire quelle est l'option rentable aussi bien du côté rwandais M23 que du côté congolais avec toute la coalition dont on vient de parler, les Oisalènes, les FARDC, on a oublié les mercenaires, etc., etc., etc. Mais c'est de dire que l'option militaire, c'est l'option la plus rentable. Alors si l'option militaire est la plus rentable, alors nous assistons à cette escalade de violence, et ce n'est ni l'appel des États-Unis, ni l'appel des uns et des autres qui va arriver à mettre fin à toutes ces dynamiques. Par contre, nous allons avoir une dynamique armée qui va parler, et c'est lui qui va avoir la dynamique armée qui parlera, et qui aura le maître mot, la fin de l'histoire, c'est-à-dire grosso modo, c'est lui qui va pouvoir avancer et prouver que l'option militaire n'est pas l'option qui va apporter des solutions. C'est à ce moment-là peut-être que l'on va arriver à parler le même langage, et à ce moment-là que l'on pourra commencer à discuter pour essayer de ramener, entre guillemets, les gens autour d'une table, essayer de chercher des solutions pour résoudre ce conflit qui n'a que trop duré pour les populations civiles.
Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, on me dit que sa ligne a coupé. On va essayer de le rappeler. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations international à l'université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Je vous repose aussi la même question, la question que je pose au professeur. On a on a eu organisé plusieurs émissions sur la situation sécuritaire dans le Kivu. Vous avez donné des vous avez fait des propositions pour essayer de mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est l'ultime solution, si je peux le dire ainsi, ou comment stabiliser finalement cette partie du pays?
Bien, merci beaucoup pour la parole, Madame Kelly, et la question pertinente. Alors, quelle ultime solution, comme vous l'avez dit, pour stabiliser la région? Je pense que je vais procéder de cette manière. Au niveau local, il y a des soucis. Lorsque je parle des niveaux locaux, je vois la province, que ce soit du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, où il y a des conflits entre communautés, où il y a un problème de vivre ensemble. Et je crois qu'il faut une table ronde au niveau de ces communautés-là pour échanger et essayer d'harmoniser les vues. Mais au niveau national, et je vais beaucoup m'atteler là-dessus, au niveau national, la solution ultime, c'est de permettre à rendre l'État congolais à être un État capacitaire qui répond favorablement à ses missions régaliennes. Et au niveau régional, je fais allusion ici au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, il faut aussi un dialogue franc qui va permettre à ce que les États se parlent et balisent le terrain d'une paix durable et d'une sécurité. Il faut une franchise dans le dialogue qu'on peut organiser au niveau régional, parce que il y a eu des dialogues, il y a eu des sommets au niveau régional, mais qui malheureusement n'ont pas apporté des résultats escomptés, parce que il y a eu, excusez-moi l'expression, cette hypocrisie, ces jeux-là de ping-pong. Ils participent au sommet, mais ils ne respectent pas les recommandations issues de ces sommets, et voilà pourquoi la région où l'Est de la RDC continue à payer les lourds tributs de cette conflictualité. Et au niveau international, puisqu'il y a, il ne faut pas oublier, Madame Kelly, qu'il y a des acteurs directs ou actifs et des acteurs indirects ou invisibles dans ces conflits à l'Est. Eh bien, je crois que c'est au niveau régional et international, grâce à une diplomatie agissante de la RDC, c'est de permettre à organiser, à répertorier d'abord les acteurs directs ou visibles, notamment les M23 et les différents groupes rebelles, mais aussi il y a des acteurs invisibles, selon les rapports, que ce soit de Human Rights Watch, Amnesty International, il y a certaines puissances, certaines multinationales qui seraient derrière tel ou tel pays qui soutient, n'est-ce pas, le mouvement de rébellion M23 pour, n'est-ce pas, continuer à déstabiliser l'Est du pays. Eh bien, je crois que lorsqu'on sera arrivé à faire ce diagnostic et à permettre à ce que ce soit au niveau régional ou au niveau international, à répertorier ces acteurs et à organiser aussi un dialogue franc, je pense que ce sera, à mon avis et selon votre mot, une solution ultime. Au niveau national, il faut que l'État redevienne un État capacitaire avec toutes ses missions régaliennes. Nous déplorons cette situation qui a trop duré parce que il n'y a pas de bonne volonté. On a assisté à la feuille de route de Luanda, au sommet de Luanda. On a assisté au sommet de Nairobi. Mais on revient toujours sur les mêmes choses. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette volonté. Et pour terminer, Madame Kelly, moi je pense que la communauté internationale a montré ce que je qualifie vis-à-vis de la RDC, une diplomatie de misère ou de compassion. Et je fais allusion ici à l'appel, parce que vous l'avez dit, à l'appel du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui appelle des chefs d'État à dialoguer. Mais moi je pense, souvenez-vous madame, en 2012-2013, il a suffi un simple appel de l'ancien président américain Barack Obama au président Kagame, et grâce aussi au soutien de la communauté internationale, cette guerre a pris fin. Qu'est-ce qui empêche
aux alliés de la RDC, notamment les États-Unis, l'Union européenne, de faire pression aux États qui soutiennent les mouvements de rébellion, notamment le Rwanda et l'Ouganda, selon le rapport d'experts des Nations Unies. Les appels, oui, mais je crois que ce soit les appels ou le soutien que les partenaires de la RDC peuvent apporter à ce pays manque d'une pression, et lorsqu'il n'y a pas cette pression au niveau international, les États qui soutiennent les mouvements de rébellion pensent continuer dans leur aventure, malheureusement.
Alors, vous parlez des pressions. Quelles sont les pressions, par exemple, Frédéric Amani?
Bien. Je vous ai suivi difficilement, Madame Kelly. Vous dites.
Vous avez parlé des pressions demander aux alliés, aux pays amis de la RDC, de faire pression sur les pays qui soutiennent les groupes armés. Quel genre de pressions? Déclarations où il faut sanctionner ces pays-là?
Bien, merci beaucoup, Madame. Pression, nous le voyons, et je crois l'avoir dit sur vos antennes. Nous avons décrié cette politique de déploiement des mesures de la communauté internationale lorsqu'il s'agit de l'Afrique, notamment de la RDC et de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. On a vu comment la communauté internationale, les alliés de l'Ukraine, se sont mobilisés aux côtés de l'Ukraine en sanctionnant la Russie, et bien en faisant pression aussi aux alliés de la Russie. Qu'est-ce qui empêche que ce soit aux États-Unis, à la France, Grande-Bretagne, l'Union européenne, de faire, au-delà de faire pression au Rwanda et à l'Ouganda, mais de faire aussi pression à leurs alliés, notamment couper le financement? Nous savons que le Rwanda, c'est un allié stratégique, et même l'Ouganda des États-Unis. Je crois que si les États-Unis arrivaient à faire pression en coupant le soutien à ces pays-là, je crois que ces deux pays, le Rwanda, l'Ouganda, accepteraient de s'allier derrière, n'est-ce pas, les recommandations des différents sommets qui ont eu lieu pour la paix et la sécurité. Un autre élément, je pense que au-delà de ces sanctions ou de ces pressions, eh ben, je crois que l'organisation continentale, l'Union africaine, devrait prendre position clairement, et même la fameuse EAC devrait prendre fermement la décision et la position vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, la RDC est le premier pays par rapport, n'est-ce pas, vous avez suivi dernièrement le rapport des HCR par rapport au nombre de déplacés internes suite à ces conflits. Or, c'est aussi une bombe à retardement, puisque ces déplacements internes risquent aussi de se déverser dans ces pays, et les conflits encore naîtront, que ce soit en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, alors qu'il y a possibilité d'éviter cette diplomatie de compassion et de misère vis-à-vis de la RDC, et d'agir conformément au droit international, conformément, n'est-ce pas, à la Charte des Nations Unies, pour que la paix et la sécurité reviennent à l'Est.
Merci.
Tant que ces éléments ne seront pas.
On va vous redonner la parole, Frédéric Amani. Le temps pour nous de permettre à Henri Pacifique Mayala, qui est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, de s'exprimer aussi. Henri Pacifique, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir Madame Kelly, je vous suis.
Alors, comment vous analysez cette situation dans le Nord Kivu, précisément dans le Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, malgré les appels au cessez-le-feu? La situation demeure préoccupante, les combats ont repris, les populations fuient, les nombres de déplacés ne cessent de s'accroître. Qu'est-ce qui se passe finalement?
Alors, merci déjà Madame Kelly pour cette opportunité. Personnellement, je suis en train de ressentir un peu comme si nous sommes face à une réelle impasse. À pouvoir observer ce qui se passe sur le terrain, il faut vraiment réfléchir sur les options ou les solutions à apporter à cette crise. Je crois qu'il faut tout d'abord essayer de regarder d'où est-ce que nous venons. considérant cette approche, considérant cette perspective historique dans le passé récent, à comment est-ce que tout ce conflit s'est envenimé, 2021, quand la résurrection du M23 commence, quelles ont été les réponses qu'on a apportées, de quelle nature ont été ces réponses, quelles ont été les sources de ces réponses. Et à l'interne, nous savons qu'il y a eu des pourparlers entre Congolais où nous avons eu des représentants du M23 qui séjournaient sur Kinshasa pendant des mois, et après il y a eu éclatement de forces. Je vais dire éclatement des affrontements sur le terrain. Et à cela s'en est suivi le recours à des solutions externes, et nous avons eu recours à multiples séances diplomatiques où nous n'avons pas eu vraiment de résultats jusqu'à plus ou moins récemment avec les pourparlers de Luanda, où nous avons eu c'était le fait qui malheureusement est en train de partir en fumée. Alors, il se pose la vraie question sur qu'est-ce qui n'a pas été encore fait jusque-là. Et en observant la récente recrudescence des combats, quand vous voyez les forces, les solutions externes, c'est-à-dire les forces étrangères qui sont venues, entre autres les forces de l'EAC, ces pays, ce sont des pays qui ont des intérêts qui se superposent. Et comme le disait tantôt le prof Kabamba, je crois que là nous sommes dans la situation où la situation n'est pas présentée d'une façon de pareil. Sur le terrain, nous avons les Burundais qui sont accusés de laisser passer les FRDC, bien naturellement parce que au niveau bilatéral, le Congo a plus ou moins une certaine un certain rapprochement avec le Burundi. Et d'autre part, quand vous regardez ce qui s'est passé récemment, entre autres le lundi, vous trouvez que le contingent kényan et ougandais, il se comporte plus ou moins de la même façon avec la rébellion du M23. Et du coup, la zone supposée être tampon, elle a carrément été violée, et nous nous retrouvons dans une situation où nous avons le record mondial de déplacés internes avec une crise humanitaire inimaginable. Et aujourd'hui, quand on envisagerait les solutions politiques, je crois que le gouvernement de Kinshasa se retrouve plus ou moins dans une position assez critique au vu de la donne électorale qui approche. Il y a les clameurs publiques qui de plus en plus ne considérerait pas vraiment une approche politique, et donc la voie militaire semble être de plus en plus privilégiée. Vous avez parlé de l'arrivée du général des armées Christian Tshiwewe, dont je pense les premiers retombées sont plus ou moins dans le sens à reconfigurer encore l'architecture militaire en place ici en province. Et à cela, comme vous le savez, hier déjà, il y avait des opérations conjointes entre la MONUSCO et les FRDC qui étaient mises en place. Mais de mémoire, vous savez aussi qu'autour de 2015, il y a eu cette même approche où des opérations conjointes, en tout cas entre les FRDC et la MONUSCO, n'ont pas porté fruit pour des considérations d'ordre du respect des droits humains. Et on pourrait se retrouver dans la même situation parce que les mêmes faiblesses que nous, à travers le bureau des droits humains, n'ont pas évolué, en tout cas dans le sens où les mêmes personnes peuvent être ramenées sur l'échiquier des décisions. Et on se demande, est-ce que cette nouvelle approche va réussir quand on se souvient que les opérations Sekola ont vraiment eu les résultats mitigés. D'autre part, comme je le disais tantôt, l'approche politique semble de plus en plus ne pas être prise en considération par Kinshasa. Et du coup, on se demande, qu'est-ce que nous n'avons pas essayé? Quelle serait l'approche à pouvoir considérer pour essayer d'amener les acteurs sur la même table? Et je crois que la réponse se retrouverait effectivement sur cette dimension où le conflit lui-même n'est pas présenté de la même façon. Mm-hmm. Il y a les causes lointaines qui ne sont pas prises en considération quand il faut réfléchir sur ce conflit. Et tout cela, je crois que quand on revient sur la dimension où on se demande est-ce qu'il faut privilégier les opérations militaires, il y a déjà toutes les forces qui pouvaient être envisagées. Et même quand on pense à la SADC, on va se souvenir aussi qu'au sein de la même MONUSCO, il y a déjà une force qui détient un mandat offensif dont les soldats proviennent des mêmes pays de la SADC. Et du coup, je trouve que la solution ultime serait plutôt, au lieu de partir sur des opérations militaires, envisager des voies diplomatiques où les uns et les autres vont plus ou moins mettre un peu d'eau dans leur vin et que les causes profondes, les causes lointaines de cette énième guerre qui ne dit pas son nom puissent plus ou moins être mises sur la table et que la protection des civils, surtout les vulnérables qui sont déplacés internes aujourd'hui dans les camps autour de Goma, puissent être privilégiés, que leur bien-être puisse être privilégié.
Alors, sinon, la voie diplomatique, la voie diplomatique n'a pas marché, visiblement. On a tenté, hein, la RDC a essayé plusieurs fois, mais de l'autre côté, la RDC accuse le M23 soutenu par le Rwanda de toujours violer les accords. Est-ce que il faut continuer avec la diplomatie, sachant que cela n'a pas donné jusqu'ici des résultats escomptés?
Mais moi, je crois qu'il faut réorienter cette diplomatie, parce que, comme je le disais tantôt, on a fait appel à des pays qui avaient des intérêts superposés pour adresser un problème qui ne les affectait pas de la même façon. Même avec l'issue envisagée sur le déploiement de la SADC, regardez aujourd'hui, madame, la présence du Rwanda dans la même région de la SADC. La présence des troupes rwandaises au Mozambique, par exemple, que ce soit pour contrecarrer l'avancement de djihadistes ou que ce soit pour protéger les intérêts français, entre autres l'investissement total, on parle ici de pratiquement le plus grand investissement sur le continent africain. Je ne trouve pas rationnel un Mozambique à se mettre en porte-à-faux avec le Rwanda en ce moment. Et vous vous souviendrez que lorsque, autour de juillet, cette alternative commençait à prendre de plus en plus forme, c'est à ce même moment-là que le président Kagame a renforcé ses liens diplomatiques avec l'Angola. Et donc, moi je crois que d'une part, c'est toujours une alternative qu'on puisse considérer, mais il faut la réorienter.
Merci.
D'autre part, sur le terrain, nous voyons comment se comportent les Burundais, qui sont plus ou moins appréciés par le gouvernement congolais, mais ils ne le font pas pour la gloire des dieux et le salut des Congolais. Non, ils le font parce que le président Tshisekedi leur a accordé feu vert pour traquer les rebelles burundais dans le sud-sud de la province du Sud-Kivu. Donc, je crois que c'est tout ce qu'il faut ramener sur la balance et essayer de trouver, en tout cas, tirer son épingle du jeu et ne pas chercher à tâtonnant des solutions auprès de tous ceux qui se, auprès de tous celui qui se présente en premier.
Merci, Henri Pacifique Mayala. Les internautes, ils sont très nombreux à suivre cette émission. Ils nous suivent de partout, du Kassai Oriental, de Luanda, du Mozambique, Zanzibar aussi, de Dilolo, dans la province du Lualaba. Merci beaucoup d'être branchés sur la page Facebook de Radio Okapi. On va prendre quelques auditeurs qui appellent pour donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre en Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental pour écouter cet auditeur. Ce sera pour vous, professeur Bob Kabamba.
Serge Kabeya Makanda, candidat député national vice de Mbujimayi. Au début de cette guerre, le gouvernement congolais avait préconisé au temps des fronts dont celui diplomatique, pour parvenir à décanter la situation. Hélas, les fronts diplomatiques et politiques n'ont pas permis de mettre fin à la guerre, nonobstant certains résultats positifs réalisés sur le terrain. Ces résultats, selon moi, devraient être réconfortés ou renforcés par les fronts militaires qui consistent à briser les cessez-le-feu et lancer les offensives ou déclarer officiellement la guerre pour soit mettre fin à cette situation, soit accepter que le Rwanda occupe la partie congolaise qu'il convoite.
Professeur Bob Kabamba.
Merci en tout cas pour la question de l'auditeur. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un succès diplomatique par rapport à cette situation. Parce que tout simplement, il y a plutôt ce qu'on pourrait appeler un imbriglio où véritablement nous sommes dans un pot-au-pot, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous explique. Le gouvernement congolais fait dans une lettre demande le retrait immédiat et rapide des forces de MONUSCO de la RDC en décembre. Au même moment, ce gouvernement congolais demande à la MONUSCO de pouvoir l'appuyer pour protéger Goma et Sake. En sachant très bien que la MONUSCO, si elle doit partir, elle doit être dans les opérations de mobilisation et de pouvoir arriver à pouvoir quitter les différentes positions. Et donc, d'une part, on dit partez, et d'autre part, restez. Alors là, d'une manière diplomatique, ça ne prend pas la diplomatie congolaise au sérieux. D'autre part, on fait appel à l'EAC avec des mots et des lettres et des intentions tout à fait affirmées, confirmées pendant plusieurs mois, et au bout du course, on demande aux EAC de pouvoir quitter le Congo le 8 décembre, en sachant très bien que ce n'est pas une décision qui appartient au Congo, mais qui appartient plutôt au sommet des chefs d'État pour décider du retrait des troupes de l'East African Community. Et à côté de ça, on veut encore faire venir la SADC, et comme par hasard, on voit bien que dans la SADC, il y a la Tanzanie. La Tanzanie qui, d'une part, est dans l'East African Community, où on dit à l'East African Community que vous n'y valez pas grand-chose, vous avez mal travaillé. Et de l'autre côté, la Tanzanie qui est aussi dans la SADC, on vient demander à la Tanzanie qui est dans la SADC aussi de dire, ben oui, finalement, vous êtes quand même très fort, venez quand même sur le terrain congolais. Et là aussi, de manière très claire, on voit bien que au niveau diplomatique, on ne sait plus quelle est la position de la RDC, on ne sait plus ce que veut la RDC, on ne sait plus quelle est finalement la position qu'ils sont en train d'adopter. Et lorsque l'on parle de diplomatie, ben, tous les diplomates au niveau international, les Américains qu'on a parlé tout à l'heure, les pays africains demandent au président Tshisekedi de négocier, ben, lui il ne négocie pas. Alors comment voulez-vous que diplomatiquement, que ce soit une réussite? Militairement, ça n'a pas de sens non plus, puisque au niveau militaire, qu'est-ce qu'on a? On a les Wazalendo. Les Wazalendo sont des multitudes de groupes armés qui sont des Maïmaï et qui ne sont pas unis comme on peut le penser. Et chaque groupe Maïmaï essaie dans la mesure du possible de jouer de la violence pour espérer pouvoir contrôler l'un ou l'autre territoire et parmi les contrôles des uns ou l'autre territoire dans l'objectif que nous connaissons. Vous avez les instructeurs qui sont payés rubis sur ongle, tandis que des FRDC qui sont là, ils ne sont pas non plus payés. Donc au niveau militaire, donc on se rend bien compte que militairement, aussi depuis les débuts des hostilités, ben, le M23 ne fait qu'avancer et les FRDC ne font que reculer. Et dans cette logique de choses, si le M23 continue à avancer, ben, ça veut dire que Goma va tomber, ça veut dire que Bukavu va tomber, et si Bukavu tombe, ça veut dire plus tout le Vaché avec ce qu'on appelle l'effet domino, Kindu, Uvira, etc., etc., qui pourrait se retrouver sous le contrôle donc du M23. Et là, on ne parlerait plus de la même logique. Donc pour l'auditeur, diplomatiquement, non, et militairement, non.
Alors, on va lire quelques réactions des internautes. Élisée Kabuyaya, depuis Goma, qui nous a écrit sur la page Facebook de Radio Okapi. Malheureusement, c'est la population qui paye le prix. Nous sommes fatigués d'attendre le cessez-le-feu. Si le gouvernement ne veut pas négocier, qu'il engage la force officiellement pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre. Massanka Lajoie, je ne sais pas sur quel pied on peut danser, pas de dialogue avec le M23. Sur le plan militaire, nous sommes assez faibles. Les Congolais ne savent plus à quel sens c'est voué. Merci à Missy Janouk Kuzunda qui nous suit depuis Bujumbura, Pascal Tienda depuis Kabinda dans la province de Lomami, merci à Jean de Dieu Amouli depuis Goma qui nous suit, Jonathan Makambo depuis Mamopi, merci beaucoup, vous êtes tellement nombreux à nous suivre, Amos Dekana depuis Bounia. On va continuer avec les auditeurs qui appellent, hein. On va prendre ces deuxièmes auditeurs qui appellent depuis Isangi. Ça sera pour vous, Frédéric Amani.
Je m'appelle Jean Kibifunga Malumalu depuis Sangui, province de la Tchop. À mon humble avis, je pense que pour stabiliser cette partie du pays, la RDC doit doit adopter l'approche militaire et dissuasive, car il est clairement constaté que ce sont les négociations et les accords que le gouvernement congolais entretient avec les rebelles et avec les alliés étrangers ou régionaux qui non seulement affaiblissent l'efficacité de notre armée, mais aussi compliquent sa mission dans cette partie du pays. Nos autorités doivent savoir que l'intervention militaire étrangère ne peut jamais résoudre les problèmes de sécurité dans cette partie du pays, d'autant plus que non seulement ses partenaires étrangers profitent de cette situation pour exploiter les richesses, mais surtout parce que ces derniers n'ont pas une mission offensive.
Bref, réaction, Frédéric Amani.
Bien, je salue l'auditeur de Isangi, M. Jacques, mais moi je ne suis pas pour l'approche militaire parce que la guerre se prépare. La guerre a un coût et là aussi des conséquences collatérales. Et ce n'est pas souhaitable de parler de la guerre alors qu'on ne s'est pas préparé, sinon ça risque d'être un Capharnaüm. Alors, moi je pense que je retiens ce que je crois avoir dit ici, Madame Kelly. Pour mettre fin à cette situation qui a trop duré, il faut une réorganisation interne. Cette réorganisation interne va permettre à ce que la RDC définisse bien sa ligne de conduite de sa diplomatie, eh bien, avec tous les ingrédients. On nous a parlé ici de la voie diplomatique qu'on a empruntée, qui malheureusement n'a pas apporté des solutions. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, et au regard de la situation sur le terrain, cette voie ou ces voies diplomatiques qui ont été empruntées ont manqué ce que je qualifie une intelligence stratégique dans sa matérialisation. Et troisièmement, moi je pense que la RDC ne doit pas être un terrain d'essai erreur de forces étrangères. Nous avons l'expérience de la force régionale de EAC qui a montré ses limites et qu'il est important de redéfinir. Je ne suis pas pour le départ précipité de la MONUSCO, mais je suis pour la redéfinition de sa mission pour que celle-ci appuie les efforts congolais afin de rétablir la paix. Mais si on veut, excusez-moi le terme, s'embrouiller, souhaiter le départ de la MONUSCO, de la force régionale, mais accueillir celle de la SADC, et on veut organiser les élections, entre-temps, on ne veut pas négocier avec le M23, alors qu'il y a un rapport de force. La guerre se gagne, lorsque vous ne gagnez pas la guerre, vous négociez. Même la feuille de route de Luanda le stipule, madame.
Merci.
Donc, moi, je pense que tous ces éléments doivent être mis en exergue pour que la population de l'Est et de la RDC, qui a trop souffert avec la guerre, trouve la paix et que le projet de développement puisse réussir.
Merci. Benjamin Guelombo Bassa, depuis Sheila Tembo, voilà, nous sommes là dans le Katanga. Merci de suivre Radio Okapi. Taylor Vumba, moi je considère comme des poids lourds mondiaux qui font souffrir le peuple congolais, où l'État congolais n'arrive pas à déchiffrer, à comprendre. Voilà, Raphaël Ngombe, bonsoir aux invités, salut les invités avec nous dans cette émission. Merci à Badi qui nous suit depuis la ville de Kolwezi. On va prendre ce dernier auditeur pour vous, Pacifique Mayala. Cet auditeur nous appelle de Kinshasa.
Nous ne devons pas nous voiler la face devant cette situation cruciale qui traverse notre pays, trois décennies maintenant, jour pour jour. Et la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. La RDC se réserve de lever l'option de la réplique pour déclarer ouvertement la guerre contre le pays qui soutient les différents groupes armés actifs sur son sol, alors que la vie de son propre peuple reste en danger et sous la menace de l'ennemi. Malgré l'accalmie observée, nous devons reconnaître que ce sont là les stratégies que souvent l'ennemi utilise, soit pour son ravitaillement en munitions et en hommes, ou c'est une façon de nous distraire après que le secrétaire d'État américain ait évoqué le cas de la désescalade entre les deux pays.
Alors Pacifique Mayala, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je dirais que la RDC en tant que pays indépendant et qui détient ce droit et ce devoir de défendre sa population, ses citoyens, peut et doit ou a le devoir d'user de ses prérogatives régaliennes pour
ramener la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Et oui, je crois que à un certain niveau, s'il faudra renverser les rapports de force en place, il faudrait bien évidemment une victoire militaire pour la RDC. Mais après, à cela aussi, revient la question de comment est-ce qu'on s'y prend. Si nous avons, nous détenons effectivement le droit d'agir militairement en tant qu'un pays, si nous ne prenons pas en considération ce droit-là, je veux dire l'avantage d'exercer ce privilège-là, la question qui se pose c'est le pourquoi. Et je crois que mes co-débatteurs sont à plusieurs reprises revenus sur cet aspect des choses. Mais par ailleurs, quand vous parlez à d'autres acteurs qui sont là en renfort avec en renfort aux FRDC, ils vous disent que les FRDC se retiennent aussi de se présenter en pays agresseur, en tout cas d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est toujours un débat qui reste d'actualité, parce que d'une part, il y avait c'était les feux qui étaient d'actualité. Et d'autre part, je crois que je ne serais pas aussi pessimiste que le prof Kabamba. Je ne crois pas que le M23 aussi dispose d'assez de capacités ou d'ambition à descendre sur Goma ou prolonger jusqu'au-delà des entités qu'il contrôle, en tout cas dans l'immédiat. Donc, pour moi, je crois que, le Congo devrait s'assumer en tant que pays souverain et jouir de ses prérogatives régaliennes pour mettre en pratique soit les options diplomatiques, soit les options militaires, afin de prioritairement protéger ses citoyens.
Alors, ici, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, on a l'ingénieur Sharif Nourou Bouraba qui pense que l'EAC, SADC et autres, ils ne voient pas l'intérêt de toutes ces organisations dans notre pays. Nos dirigeants doivent s'asseoir à l'interne pour chercher une paix durable, trouver des solutions. Il vous rejoint un peu dans votre analyse.
Tout à fait. Moi, je crois que ce n'était pas une si mauvaise idée de recourir à l'extérieur, chercher des solutions dont on ne disposait pas dans l'immédiat. Pour le moment, nous avons des instructeurs qui continuent aussi à accompagner les FRDC. Tout cela, c'est de bonnes décisions. Mais après, il faut savoir se rendre compte avec qui nous sommes en train de collaborer. Quels sont les intérêts de l'interlocuteur que nous avons en face. Nous ne pouvons pas avoir l'Ouganda venir pour le Grand Nord et espérer que, voilà, ça sera pour le bien-être que des Congolais au sacrifice du business et de l'économie ougandaise. Nous avons eu cette approche où on a contacté des partenaires qui ont des intérêts qui se superposent, si pas se contradisent à un certain niveau, et cela joue à notre désavantage.
Alors, il faut conclure, Henri Pacifique Mayala. Allez-y, ça sera votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Donc, pour ma conclusion, je vais dire que le Congo devrait s'assumer. S'il faut privilégier la voie militaire, qui, en tout cas depuis le début de ce conflit, semble être la voie que priorise le président Félix, on devrait s'assurer d'avoir les moyens de notre politique. Il faudrait commencer par la restructuration des FRDC et tout ce qui va avec. Si nous ne pouvons pas embrasser cette alternative, je crois qu'il serait sage qu'en se rabattant sur l'option diplomatique, on puisse considérer cette option, mais en tenant compte de qui est exactement l'interlocuteur avec qui nous nous engageons. Nous rassurer que on est en train de travailler avec des pays dans un esprit du win-win où les intérêts congolais sont bien défendus et tout cela nécessite une vision stratégique tant au niveau de ceux qui commandent l'armée qu'au niveau de ceux qui prennent les décisions politiques.
Merci Henri Pacifique Mayala. Professeur Bob Kabamba, en 40 secondes, il y a un auditeur, Jean-Pierre Mandevoux, qui pense que le dialogue avec les M23 nous amènera à faire des concessions avec le Rwanda.
Mais ce n'est pas ce que j'ai dit par rapport au dialogue. C'est-à-dire, grosso modo, il y a d'abord la dimension nationale, la dimension provinciale pour résoudre le problème congolo-congolais. Et ensuite, aller au niveau régional. Aller au niveau régional, ce n'est pas uniquement se stigmatiser sur le Rwanda. Il y a d'autres pays qui sont impliqués, comme je l'ai dit. Il y a l'Ouganda, il y a toute une série d'autres pays qui sont impliqués dans cette dynamique. Et puis, il y a le niveau international. Et de ces trois niveaux-là, ça ne veut pas dire qu'il faut spécifiquement identifier le Rwanda. Prenons le problème dans toute sa globalité. Et en prenant notre problème dans toute sa globalité, nous nous rendrons compte que, ben, finalement, le problème qui est posé par le M23 va se noyer dans toute la résolution des différents conflits que nous sommes en train de vivre, parce qu'il n'y a pas que la M23, vous avez le CADECO, vous avez d'autres groupes armés dans le Sud Kivu ainsi que dans l'Ituri qui sévissent et dont les populations sont locales. C'est une solution globale au niveau local, solution globale au niveau régional et solution globale au niveau international.
Alors, il y a Alain Kazadi, excusez-moi, professeur Alain Kazadi, qui nous suit sur Facebook, qui vous pose à vous la question, qu'est-ce que vous proposez concrètement, professeur Bob Kabamba?
Je propose concrètement, dans un premier temps, réunir tous les groupes, non pas à Nairobi, mais les réunir au Congo, tous les groupes armés, et faire un plan clair avec ces groupes armés par rapport à un programme de démobilisation, parce que les armées, ce n'est pas, les faire des supplétifs, ce n'est pas la solution, c'est plutôt les sortir des groupes armés qui est la solution. Deuxièmement, appliquer la niveau régionale, ça veut dire tous les pays de la région avec une espèce de grande conférence sur laquelle on ne peut aller que si on a résolu nos problèmes d'abord, nos problèmes congolo-congolais, avant de pouvoir aller au niveau régional et pouvoir faire ça. Voilà en gros, en résumé rapidement,
merci.
Ce que je pense concrètement qui peut être fait.
Merci professeur Bob Kabamba. Frédéric Amani, vous avez aussi 40 secondes pour conclure.
En conclusion, Madame Kelly, nous pensons que pour mettre fin à cette instabilité qui a trop duré, et il faut, comme nous l'avons dit, il faut que la RDC, au-delà de répondre à ses missions régaliennes, parvienne à mettre en place le dilemme de sécurité, dont notamment faire une course aux armements, parce que l'ennemi, lorsqu'il sait que vous avez aussi un armement sophistiqué, eh ben, il aura du mal à vous attaquer. D'aider, il faut que la RDC parvienne à nouer des alliances stratégiques avec des alliés bien définis. Troisièmement, nous pensons que la diplomatie de compassion et d'émotion de la communauté internationale et de la région doit cesser vis-à-vis de la RDC et inviter les experts à la matière de réfléchir sur cette question autour d'un dialogue avec les groupes, c'est-à-dire les acteurs bien connus, les différents groupes CODECO, Maïmaï, M23, pour trouver la solution. Je crois que c'est cela notre apport à cette instabilité.
Merci
madame.
Frédéric Yamani, merci à Cédric Chiombo qui nous suit depuis la France, merci à David Wedi Wechokonda qui nous suit depuis Kinshasa. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Jean-Noël Mokondo, Guy Maté, Dona Madimba, Frédéric, Jonathan Christophe, Jonathan Fanani, Clément Chimanga, Hervé Vokia, présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.